Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
La rencontre. Mais la job d'un chef, à un moment donné, c'est d'avoir un seul message.
Marie, mon petit.
Quand tu changes de voix à tous les quatre heures.
Moi, je trouve ça absolument aberrant.
Steve Fortin.
On n'y va plus avec la compétence, l'excellence. Non, c'est plus ça.
La rencontre.
Mais Steve, je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est exactement ça.
La rencontre. Fortin, mon petit.
Bienvenue à Joe Biden. On va lui chanter le Haut-Canada et Steve va commencer ça, hein, Steve?
Je n'ai rien contre cette hymne nationale, après tout, c'est nous qui l'avons écrit.
Alors, regarde ça, c'est une bonne réponse de politicien. Là, je te reconnais, mon ami. Chemin Roxham, qui aurait cru qu'aujourd'hui, on annoncerait à minuit la fin du chemin Roxham? Grosse victoire pour Justin Trudeau ou est-ce grosse victoire pour tous ceux qui ont critiqué Justin Trudeau?
Bon, moi, je vais lancer les fleurs. Peut-être que Steve va suivre avec le pot. Mais mais tu sais, il faut quand même souligner que c'est un bon coup de la part du gouvernement Justin Trudeau. Là, ils vont avoir réussi énorme. Ils vont avoir réussi où tout le monde pensait qu'ils échoueraient. Donc, non seulement ils ont réussi à faire... Tu sais, il y a quelques semaines, on se demandait encore si ça allait être seulement à l'agenda des discussions lors de la rencontre. Non seulement c'était à l'agenda, ils ont réussi à persuader les États-Unis que c'était important d'en discuter puis que c'était important d'agir aussi. Donc, très, très bon coup. Est-ce que c'est une faveur que Joe Biden a fait parce que là, bon, il y a le dossier Haïti aussi, donc là, c'est tout le monde a un peu de l'eau dans son vin et c'est un peu donnant, mais reste qu'ils ont réussi quand même aussi à garder la nouvelle en dessous du radar jusqu'à aujourd'hui. Et là, ils annoncent la fermeture, bang, d'un coup, à minuit ce soir, ce qui va empêcher, puis là, on pourrait y aller sur, ça va créer d'autres problèmes, mais ça empêche quand même d'avoir un afflux massif. Tu sais, s'ils avaient annoncé ça pour dans deux semaines.
Ben oui.
Ça aurait pu avoir comme conséquence d'avoir un afflux massif de migrants qui se présentent au niveau de la frontière. Une fois qu'on a dit ça, puis je te laisse continuer, Steve. Tu sais, Roxham, ça reste que c'est un des très gros maillons d'une chaîne qui a beaucoup d'autres maillons. Donc, c'est la frontière canado-américaine, c'est quand même près de 9000 kilomètres. Moi, j'ai bien hâte de voir les détails. Est-ce qu'il y a des ressources supplémentaires qui vont être mises en place? Parce que l'avantage de Roxham, là, je dis avantage, entends-moi bien sur le mot avantage, mais c'est que oui, il y avait un afflux abondant qui passait là, mais c'était contrôlé. T'sais, on savait par où les gens passaient. Les gens qui vont demeurer motivés à rentrer au Canada vont certainement continuer d'essayer de trouver des voies de passage autres pour le faire, avec toutes les conséquences dramatiques que ça peut amener aussi. Donc, est-ce qu'il y aura plus de ressources? T'sais, je pense pas qu'on a les moyens au Canada d'aller... il n'est pas question d'aller ériger un mur, là, mais il n'est pas question non plus d'aller mettre des policiers partout puis des enquêteurs partout. Donc, ça pourrait créer d'autres problèmes.
Steve?
Si on avait prévu dès le départ que toute personne qui passe par le chemin Roxham, mettons qu'on avait prévu dès le départ, il y aura un point d'entrée, il y aura l'avantage qu'on puisse répertorier les gens et que ce soit déjà prévu que ces gens-là ne soient pas tous dans la même province. Il y a 50 000 migrants en ce moment à Montréal qui sont en attente de décision, puis ça crée des pressions énormes sur les services, sur les organismes communautaires qui crient à l'aide, fin de parenthèse. Si on avait prévu, puis on avait dit, bon ben voilà, au prorata de la population, ça va se passer comme ça, puis on va envoyer, par exemple, on va proposer aux gens où on va, parce que là, le gros problème dans tout ça, puis la patate chaude, c'est que ça tombe toujours et trop souvent dans la cour du Québec, puis ça peut pas être comme ça. Et j'ai entendu encore ce matin dans les médias régionaux de la région de Niagara Falls, le maire là-bas, Lui, il est rendu à 8500 personnes. Il s'inquiète de sa saison touristique. Puis il dit, j'espère qu'on va avoir fait... Non, il n'a pas dit ça, mais il dit, j'espère qu'on va être capable d'avoir accès aux hôtels et tout ça. Puis, tu sais, je le comprends. Il est maire d'une ville où le tourisme est super important puis tout ça. Mais imaginez, je veux dire, après 8500 ou dans d'autres villes, c'est quelques centaines. Là, ça peut pas fonctionner. Puis la solution qu'on a trouvée, ben attendons de voir tous les fins détails. Mais on ne règle finalement pas le problème à la source, puis il aurait fallu qu'on résilie complètement cette entente-là, puis qu'on force les gens à se présenter à des points de passage réguliers. Mais là, j'ai l'impression qu'on va atterrir dans tout ça avec une solution mitoyenne. Puis finalement, ben les groupes de défense de migrants crient déjà attention, les gens vont passer dans le champ, comme à l'époque quand on a décidé de fermer Emerson au Manitoba parce qu'en plein hiver. Ceux qui sont allés au Manitoba dans ce coin-là, c'est aride, mais
tu sais. Mais en même temps, peu importe ce qu'on peut faire, il y aura des perdants. Puis c'est pas par manque d'humanité que je dis ça, mais n'est-ce pas non plus ce qui était réclamé par la plupart pour essayer de lancer le message à tous ces passeurs et cette industrie de passeurs qui se fait de plus en plus importante, ben que en fait il n'y a plus d'avantage à passer par les chemins irréguliers.
Non, mais c'est exactement ça le principal bénéfice en fait de ce qui vient d'être annoncé. C'est d'envoyer un message que ce sera plus toléré. Parce que jusqu'à maintenant, c'était un peu ça. C'est oui, il y a une entente, mais finalement, on la fait pas trop respecter. Puis il y a une tolérance qui se fait au niveau du chemin Roxham. Donc là, ça donnait, je veux dire, une certaine légitimité aux passeurs de faire leur travail.
De ne même plus se cacher.
Exactement. Donc c'est sûr que ça va venir. T'sais, oui, je comprends qu'on peut penser que le pari est risqué de dire on va diminuer les entrées au niveau de Roxham, mais là, est-ce que ça va avoir des conséquences autres sur le reste de la frontière? Mais je veux dire, faut quand même être... Tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça va venir diminuer le nombre de migrants qui vont faire ce chemin-là.
Marie,
c'est une certitude.
Marie, l'éléphant dans la pièce, c'est comment on va réussir à convaincre les autres partenaires du Québec là-dedans, parce que dans la Fédération, il y a d'autres provinces. Comment on va réussir à convaincre les autres partenaires que Roxham, c'est pas un problème québécois, mais qu'il faudra maintenant que tout le monde participe à cet effort-là. Et cela, même si, dans certains cas, ça va créer une pression immense sur les services, sur les organismes communautaires. Et ça, ben, manifestement, dans les autres provinces, on voit ça souvent d'un œil un peu, ben oui, mais
ce serait quoi la solution idéale?
Ben, en fait, c'est que si on a réussi à créer, par exemple, un point d'entrée à Roxham, pour les gens qui passent par l'Ouest, par exemple, qui arrivent de l'Ouest des États-Unis, pourquoi il y aurait pas un tant qu'à ça, et ben, on faut pas qu'on recrée d'autres Roxham, mais on peut pas penser qu'on va créer un poste frontière, si on veut, là, irrégulier, puis dire ben ça va être maintenant par là qu'on va faire passer tout le monde, donc par les postes frontières qui existent déjà. Et on enlève Roxham complètement.
Mais c'est ça qui va arriver? C'est ça qui va arriver à minuit?
Je pense, je pense pas que ça va être démantelé. Puis là, n'oublions pas qu'il n'y a pas longtemps.
Il va être fermé.
Le gouvernement fédéral s'il y a encore des contrats d'approvisionnement sur 10 ans, là.
Oui, ils ont annoncé que ça allait être fermé à minuit ce soir.
Ça va être fermé, mais avant qu'on démantèle tout ça complètement puis qu'il ne reste plus rien, j'attends de voir les détails de tout ça. Puis il y a des gens qui sont en route présentement, puis j'imagine que oui, on va fermer ça à minuit, mais il va se passer quoi avec les gens qui sont en route puis qui vont arriver minuit moins une ou à minuit et quart, on va leur dire ben vous êtes 15 minutes en retard. Tu sais, je ne sais pas là, il y a quelque chose là-dedans qui... Moi, en tout cas, j'attends de voir tous les détails puis comment ça va se passer une fois rendu à la frontière. On peut pas faire preuve d'inhumanité non plus.
Steve, je dois te dire que j'ai de la misère à suivre. Je te l'avoue candidement parce que il y a encore quelques semaines, on se disait qu'il fallait fermer le chemin Roxham. Là, aujourd'hui, on va manquer d'humanité si on ferme le chemin Roxham.
Non, je parle de ceux qui sont en route puis qui vont arriver à minuit et quart.
Faut-tu qu'on attende qu'ils arrivent?
Et là,
ben, non, mais je pense que probablement, je pense que si je peux me permettre, c'est probablement de voir, ils vont annoncer que ça va être fermé à minuit ce soir. Je présume que dans le détail des informations, en tout cas, j'espère, moi aussi, qu'il y a quelque chose qui va être fait pour, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui sont en chemin. Là, l'idée, c'est pas de les laisser rentrer. Ouais. Il risque d'y avoir certaines exceptions, certainement, tu sais, pour les mineurs.
Mineurs, puis les personnes qui ont de la famille, ça, c'est déjà
prévu. Voilà, exactement. Ça, c'est certain, ça va s'y retrouver. Mais après ça, tu sais, il faut, en tout cas, moi, je serais sensible au fait qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place pour pas juste retourner ces gens de bord là. Je dis pas qu'il faut les laisser rentrer, mais faut être conscient que c'est une décision importante qui est prise en 24 heures et que ça peut avoir certaines conséquences.
Oui.
Je pense que c'est Joe Biden qui t'appelle.
Ouais, ouais.
Ouais, désolé.
Là, t'es en retard à son speech là. Steve, moi je trouve que.
Ce que je veux dire, je veux bien qu'on comprenne, c'est que c'est pas une question de savoir si on ferme Roxham ou pas. On va voir dans les détails qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais je pense pas qu'on va arriver tout de suite avec une situation où c'est 100%. T'sais, je pense qu'il va y avoir des mesures d'atténuation pendant un certain temps. Je ne sais pas, on n'a pas les détails, mais tu sais, l'angle qui est le plus important pour moi, c'est de nous assurer que tout ça, ce soit un effort qui est collectif et qu'on prenne ça en compte, parce que c'est souvent un angle mort dont on parle pas assez.
Simplement pour rappeler que le fait qu'ils ne demandent pas qu'ils ne formulent pas de demande d'asile ici au Canada, ils vont la demander aux États-Unis. C'est que eux, ils choisissaient le Canada comme choix numéro un pour faire leur demande d'asile plutôt que les États-Unis. Mais si le Canada leur dit, vous pouvez même pas rentrer par le chemin Roxham, vous êtes pris entre guillemets aux États-Unis, ils peuvent toujours formuler une demande d'asile aux États-Unis. Et ça va permettre ce qu'on comprend par l'accord qui va être annoncé sous peu, c'est que nous, parmi ceux qui vont rester aux États-Unis, on va aller en chercher 15 000. Ces 15 000 devront être distribués à travers tout le pays.
Qui s'ajoute aux 92 000 qu'on accepte déjà.
Oui. Qui se rajoute aux 92 000.
Mais tu sais, on est juste au début de ces discussions-là parce que tu disais, t'as raison, là, ça vient lancer un message aux passeurs. Oui, je pense que ça va venir calmer le jeu puis tarir les entrées au niveau du chemin Roxham, mais faut être conscient que ça vient pas tout régler la question de la migration. Et ça va faire partie, on commence à peine à en parler. Là, puis tu sais, si on veut élargir le sujet, il y a toute la question de la migration climatique qui est déjà un enjeu sur d'autres continents qui va venir nous rejoindre aussi. Donc, tous ces enjeux-là de migration, on commence tout juste à en parler. Et ça va être vraiment important politiquement.
Vous savez quoi? Il y a une amie journaliste française, et elle a fait une partie de ses études ici à Montréal. Elle m'envoie un message, elle me dit, t'as vu ça? C'est un reportage, ça a été lancé là sur Twitter par TV5 Monde, mais ils viennent de le faire. On parle de ça partout dans le monde. Et là, c'est une petite capsule hyper intéressante, 2 minutes 15 environ. Puis on dit aux gens, qu'est-ce que le chemin Roxham? Puis comment certains migrants illégaux peuvent rejoindre le Canada? J'ai vu un autre reportage, mais celui-là, Le National, c'est le nom d'un média d'Haïti. Puis là, on parle, tu sais, les termes seront pas les mêmes et tout ça. Ce qui arrive, c'est qu'on parle de ça partout dans le monde, parce que cette nouvelle-là va avoir un effet partout dans le monde où les gens avaient entendu parler de ce passage-là et espéraient y arriver. Maintenant, sachant cela, ça va être vraiment la responsabilité de tous les partenaires dans ce dossier-là. Donc, bien sûr, le fédéral, les provinces, pour que le message soit très clair, parce que l'angle des passeurs, on le voit dans les quelques 2 minutes de TV5 Monde, des gens qui disent, un chauffeur de taxi qui dit, moi, c'est minimum 80$ par personne, vous êtes deux dans le taxi, je descends ça à 50, puis on se négocie comme ça, puis on le voit en train de négocier avec des gens. Je veux dire, ça donne quelle image? C'est justement ça.
Ouais,
ça donne une image
presque, là.
Puis ouais, si c'est ça le meilleur, le plus grand bénéfice à court terme de la décision qu'on prend en ce moment, tant mieux. Mais c'est au moins ce sera ça, parce que ça déjà là, c'était un angle qu'il fallait absolument réduire et même éliminer là ce trafic là.
Et en parlant d'un autre trafic, celui des locations à court terme mené par Airbnb sans le numéro là du CITQ. Airbnb a annoncé aujourd'hui que toute location à court terme n'ayant pas ce numéro-là va être retirée de ses plateformes. Est-ce que Airbnb a compris le message ou est-ce que Airbnb essaie de mettre le couvercle sur une marmite beaucoup trop chaude qui bouille beaucoup trop et qui ne vont pas réussir à gérer?
Ben, c'était la moindre des choses à faire. On a eu ces discussions-là dans les derniers jours. Il y a une réglementation qui est claire. Il y a la loi sur l'hébergement touristique au Québec qui est claire que quand tu veux mettre un logement sur Airbnb, tu devras aller chercher le fameux numéro du CTQ. Mais tu sais, il y avait des milliers d'annonces qui se retrouvaient en ligne, visibles, qui n'avaient pas ce numéro-là. Et quand tu veux mettre ton logement sur Airbnb, ça te un pop-up, là, puis ça te rappelle que tu as l'obligation d'aller chercher le numéro. Mais ça t'empêche non seulement pas de mettre ton annonce, puis une fois que tu as ton annonce, ça t'empêche pas non plus de procéder à des locations. Donc là, c'est comme, tu sais, c'est un peu, en tout cas, je trouvais ça un peu limite, dans le fond, de le rappeler, mais de pas l'obliger. Là, on comprend qu'il y a eu des rencontres avec la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, et Airbnb qui se sont passées pas super bien.
À tout le moins, pas de l'extérieur de la manière qu'on l'a vu hier.
Exactement. On sait pas ce qui s'est dit à l'interne, mais ça a l'air d'avoir été assez efficace pour que Airbnb fasse ce qu'ils sont censés faire. C'est-à-dire, si t'as pas de numéro de CTQ, tu peux pas mettre ton annonce et tu ne peux pas louer ton logement. Parfait. Donc, au moins, ça vient régler cette partie-là. C'est pas parfait, là, mais il y a un morceau au moins qui est réglé.
Steve, est-ce que Airbnb est devenu comme une cible facile là, pour essayer de justifier le brasier, pour dire que c'est à cause d'Airbnb, le fait qu'on manque de logements abordables? C'est pas devenu juste comme un peu comme la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre, tu sais, comme une espèce de foutoir où on met toutes sortes de choses dans lesquelles on n'est pas capable de justifier autrement?
Non, je pense que la critique envers Airbnb, elle est justifiée. Je souligne le travail de l'équipe d'enquête du Journal de Montréal qui a publié justement un texte aujourd'hui où on apprend que le même propriétaire, celui de l'immeuble qui a brûlé là, cette semaine, il y a d'autres annonces exactement comme celle-là, des chambres sans fenêtres, sans gicleur, sans possibilité de sortie de secours, sont encore allouées présentement. On se magasine encore une fois des catastrophes si on n'agit pas. Puis il va falloir faire le ménage là-dedans. Si un journaliste d'enquête est capable comme ça d'identifier tout de même finalement assez facilement là de trouver puis d'identifier, de nommer les adresses et tout ça, ben on a fait l'essentiel du travail pour que les inspecteurs s'y rendent. Puis parce que c'est bien nommé dans l'article que ces offres de location là ont eu toutes les certifications nécessaires pour se retrouver sur Airbnb. Mais, c'est incroyable.
Mais c'est pas illégal d'avoir des appartements pas de fenêtres là, tu sais, c'est la ville qui les tolère, c'est pas Airbnb qui les a créés non plus là.
Non, mais t'es censé, oui, dans le code du bâtiment, t'es censé avoir une deuxième sortie par contre.
Oui, c'était, mais on s'entend que c'est ça le problème.
C'était ça le problème.
Mais est-ce que c'est à Airbnb de faire des inspections pour s'assurer que il y ait toutes ces mesures là?
Non. Pas. Non, absolument pas. Puis, mais tu sais, encore là, tu sais, pour revenir à ta question de départ, je pense que il y a certains cas clairement qui sont abusifs. On en a vu, tu sais, il y a deux semaines, Québec solidaire l'a souligné, entre autres, d'un propriétaire qui vide, si ma mémoire est bonne, ses 16 appartements d'un coup pour les rénover puis en faire du Airbnb. Là, c'est sûr que, ça vient créer vraiment un enjeu au niveau de l'accessibilité. Mais tu sais, encore là, il faut faire la distinction entre un propriétaire qui décide une semaine ou deux ou trois par année de louer son propre appartement parce que
quelqu'un qui décide de le faire.
Ouais, parce que tu pars en vacances, puis tu dis, ben, pendant les trois semaines où je vais être en vacances, sinon ça me paiera l'équivalent de mon billet d'avion, de louer mon appartement. Donc, c'est ton propre bien que tu loues. Moi, je regardais la ministre Proulx, elle référait à ce genre de cas-là. Moi, j'ai pas de problème avec ce genre de cas-là, mais c'est pas juste ça, par contre. C'est, je veux dire, il y a des appartements, tu sais, entre autres, au cœur de Montréal, notamment au plateau Mont-Royal.
Quartier touristique.
Ouais, où là, ça, je veux dire, t'en as de plus en plus des appartements qui sont à vocation unique de Airbnb, là.
Steve, Marie, on va suivre le voyage de Joe Biden jusqu'à ce soir et on va zioter qu'est-ce qu'ils vont manger, comment ils vont s'habiller, puis on va pouvoir tout parler de ça puis colporter des rumeurs ensemble lundi. Bien hâte de vous reparler, chers amis.
Bonne fin de semaine.
Steve, bonne fin de semaine.